Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. NCS et Togo. Au programme, personnes immigrées et logement. Le grand défi. Et contrôler sa pression artérielle par l'alimentation. Bonne écoute.
Personnes immigrées et logement. Le grand défi. Un texte de Damarcy Rose, paru le 14 mars 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. S'installer dans un logement décent et abordable dans un quartier accueillant et sécuritaire constitue une étape primordiale de l'établissement des nouveaux arrivants et arrivantes au pays. Plus qu'un simple toit, le premier logement permanent permet d'organiser la vie quotidienne et d'accéder aux services d'insertion linguistique et économique. Souvent, ce premier logement répond aux exigences de base, sans plus, à cause du contexte migratoire, des ressources financières très restreintes des personnes immigrées ou de leur faible connaissance du marché. Ces personnes aspirent cependant à améliorer leur qualité de vie à moyen terme, d'où la deuxième étape qui consiste idéalement à passer de la situation de locataire à celle de propriétaire. Cela revêt une importance autant symbolique que matérielle et représente un gage de réussite de l'insertion dans la société nord-américaine. À Montréal, les immigrantes et les immigrants des années 1960 et 1970, issus principalement des pays d'Europe du Sud, accédaient à la propriété en plus grande proportion que les autres ménages parce qu'ils cumulaient les revenus de plusieurs membres de la famille en vue de l'achat et de la remise en état d'un immeuble de type plex, alors disponible à très bon marché dans les quartiers centraux. Or, de nos jours, les ménages qui immigrent au Québec dépendent plus souvent et plus longtemps du marché locatif. Dans le Grand Montréal, les immigrés arrivés il y a 15-20 ans affichent un taux de propriété plus faible, 52 % que les non-immigrés, 59 %. Cela s'expliquerait par la plus grande précarité économique des cohortes récentes d'immigrés, ainsi que par le resserrement du marché locatif abordable qui frappe presque tous les arrondissements de la ville. Ainsi, l'accès au logement constitue-t-il un enjeu de plus en plus important pour les personnes immigrées, surtout celles arrivées depuis moins de 10 ans? Abordabilité du logement. La population immigrante durement touchée. Le logement social ne rejoint qu'une petite proportion des ménages québécois. La capacité de se loger convenablement sans se priver d'autres nécessités de la vie dépend de l'accessibilité du logement sur le marché privé et se mesure au pourcentage du prix du loyer par rapport aux revenus. Or, les personnes immigrées, surtout celles établies depuis moins de 10 ans, sont plus susceptibles que la population en général de vivre une grande précarité financière. Un résident du Québec sur 9, 11,1%, touche généralement un revenu en deçà du seuil de faible revenu après impôt. Or, cette proportion s'élève à 1 sur 7, 14,3%, chez les personnes qui se sont établies au Canada entre 2001 et 2010 et atteint 22,6% chez celles arrivées il y a moins de 5 ans, chiffre de 2016. La vaste majorité des immigrantes et immigrants au Québec relève, en langage administratif, de la catégorie économique. Si, pour bon nombre de ceux-ci, l'insertion économique va bon train, plusieurs se trouvent au rang des travailleurs pauvres en raison de la non-reconnaissance de leur titre de compétence et leur expérience de travail à l'étranger. Comme on peut s'y attendre, le faible revenu est plus fréquent chez les personnes admises comme réfugiées et moins fréquent chez celles qui relèvent de la catégorie de réunification familiale car ces dernières peuvent compter sur le soutien de leurs proches. La mesure des besoins en logement, la plus souvent déployée à des fins de politique publique, est l'indice des « besoins impérieux » en matière de logement. Cet indice tient compte de l'accessibilité financière, le coût du logement ne doit pas dépasser 30 % du revenu, de la taille du logement, au regard de la composition du ménage, ainsi que de la qualité du logement, besoin de réparation majeure. Parmi les locataires du Grand Montréal, plus d'un ménage sur cinq était en situation de besoin impérieux en 2016. Ce taux s'élevait à 26,4 % chez les ménages dont le soutien avait immigré au Canada moins de cinq ans plus tôt. Or, à Montréal, ce taux varie beaucoup selon la catégorie d'admission au pays. Il s'élève à 35 % chez les ménages admis en tant que réfugiés et à 45 % chez les réfugiés pris en charge par le gouvernement ou par un groupe de parrainage privé. Vous écoutez « Personnes immigrées et logements. Le grand défi », un texte de Damar Cirose paru le 14 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». L'entassement, un réel défi. À Montréal, comme dans les autres grandes villes, l'abordabilité est le principal facteur qui contribue aux besoins impérieux de logement des personnes immigrantes et non-immigrantes. Toutefois, les immigrants récents sont un peu plus susceptibles que les Montréalais de vivre dans un logement qui nécessite des réparations majeures. Une enquête de 2021 confirme l'expérience de terrain des organismes communautaires œuvrant dans les quartiers d'accueil des nouveaux arrivants. Le logement des néo-montréalais est plus souvent insalubre. De plus, l'entassement dû à l'exiguïté du logement par rapport à la taille et à la composition du ménage est une source plus importante de besoins impérieux chez les immigrants récents et particulièrement chez les personnes récemment réfugiées. Ainsi, le groupe des Syriens admis en 2015-2016 comprend un taux important et inattendu de familles nombreuses et multigénérationnelles. Selon les données canadiennes de 2016, 31% des ménages de réfugiés récents comportent 6 membres et plus, comparativement à 16% pour les immigrants récents admis selon les programmes d'immigration économique ou de réunification familiale. La pénurie de logements abordables de taille convenable jumelée à la faiblesse de la prestation mensuelle octroyée aux familles réfugiées pose un défi herculéen aux organismes communautaires et aux groupes de parrainage chargés de leur trouver un premier logement. Ces familles ont d'ailleurs tendance à y demeurer plusieurs années. Les réfugiés, demandeurs d'asile ou réfugiés rétablis, arrivés seuls, doivent composer avec des contraintes financières encore plus importantes parce qu'ils ne sont pas admissibles à l'allocation pour enfants. Cette situation mène très souvent au partage d'un petit logement avec d'autres personnes seules. Si cette situation peut apporter un soutien social, elle peut aussi créer un sentiment d'insécurité. Les personnes immigrantes vivent aussi plus souvent dans des familles multigénérationnelles. C'est le cas, en 2016, de 6,6 % des immigrants et de presque 9 % des immigrants arrivés entre 1980 et 2000, comparativement à 3,3 % des Montréalais non-immigrants. Elles vivent également plus souvent dans des familles nucléaires auxquelles s'ajoutent d'autres personnes apparentées ou non. En 2016, 6,7% des immigrants récents et 5,5% des immigrants sont dans cette situation contre 3,7% des Montréalais non-immigrants. Ce sont là des expressions de solidarité familiale, culturelle et économique, comme on l'a observé dans des cohortes antérieures d'immigrants des pays méditerranéens. Or, en raison des plus grandes difficultés d'insertion économique et de la flambée des prix immobiliers, ces familles sont plus à risque de vivre une situation d'entassement. L'impact de la pandémie. Enfin, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l'importance des conditions d'habitation sur la santé des résidents et résidentes. Le risque de transmission au sein du ménage s'accroît lorsque la taille du logement est insuffisante pour permettre l'isolement d'une personne atteinte du virus. L'entassement dans les logements s'est ainsi avéré un facteur de risque additionnel, surtout dans le cas des ménages dont des membres travaillent dans les secteurs des services essentiels, situation fréquente chez les personnes immigrantes et réfugiées. Et si le ménage est multigénérationnel, le risque est encore plus grand pour les aînés qui y vivent. En ce qui concerne la santé mentale, le stress associé au cycle de confinement prolongé et répété serait aggravé chez les personnes et les familles vivant dans des logements exigus, sans espace extérieur privé où se détendre et jouer. Ainsi, les inégalités relatives à la qualité de l'habitat s'associent aux inégalités socio-spatiales observées lors de la pandémie qui, à Montréal, comme dans d'autres grandes villes, a frappé plus durement les quartiers à forte densité d'immigrantes et immigrants récents ainsi que de minorités racisées. Des obstacles particuliers, des barrières discriminatoires. Qu'il s'agisse de la recherche du premier logement ou de celle d'un logement plus convenable, de nombreuses études scientifiques, dont des enquêtes menées à Montréal, montre que les immigrantes et immigrants récents font très souvent face à des obstacles qui ne relèvent pas de leur capacité financière ou de la pénurie de logements abordables convenant à la taille de leur famille. L'absence de références ou de cotes de crédit émises au Canada est une barrière fréquente. Alors que la Société canadienne d'hypothèques et de logements a instauré un programme d'aide aux nouveaux arrivants sans antécédent de crédit qui veulent devenir propriétaires, les locataires n'ont droit à aucun programme de ce type. Souvent, les propriétaires exigent un dépôt élevé ou un garant, ce qui pose un défi majeur aux personnes sans parents ou amis déjà établis au pays. De surcroît, un nombre préoccupant de nouveaux arrivants vivent des problèmes de logement en raison de la discrimination fondée sur le statut, notamment les demandeurs d'asile ou sur l'origine ethnique. De telles pratiques, illégales selon la Charte des droits et libertés de la personne, ont pour effet de restreindre le choix d'un logement et d'accroître le risque de se trouver dans un immeuble mal entretenu ou dans un logement insalubre. Vous écoutez « Personnes immigrées et logement », Le Grand Défi, un texte de Damar Cirouse, paru le 14 mars 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. Les organisations communautaires à la rescousse. Au Québec, un important réseau d'organismes communautaires de recherche de logement pour les nouveaux arrivants tente de pallier les obstacles d'accès à un logement décent et abordable. L'État et des organismes caritatifs, religieux et autres financent ces groupes communautaires et de nombreux bénévoles y œuvrent. Ces groupes collaborent avec des propriétaires plus accueillants, tiennent des inventaires de logements disponibles, explique aux immigrants le fonctionnement de notre système de logement, qui peut paraître opaque, et prodigue des conseils aux personnes qui ont un problème de logement. Certains organismes offrent un soutien intensif aux réfugiés pris en charge par le gouvernement afin d'assurer leur installation dans un premier logement décent, ce qui fait partie des obligations humanitaires de l'État. Malgré leur dévouement, les organismes communautaires n'arrivent pas à rejoindre toutes les personnes concernées. Ainsi, les immigrants économiques et les demandeurs d'asile recourent-ils plus souvent au réseau informel de leur groupe ethno-culturel pour recevoir de l'aide ou des conseils en matière de logement? Or, l'information qui y circule tend à être moins fiable ou incomplète. Que faire? En quoi pourraient alors consister des réponses progressistes aux enjeux et défis soulevés? Est-ce qu'ils sont, en conclusion, quelques éléments de politique qui tiennent compte des points de vue des intervenants clés de l'aide aux nouvelles et nouveaux arrivants consultés lors des recherches antérieures? En matière de politique d'habitation, il importe de prioriser à tous les paliers de l'État la remise en état des immeubles locatifs détériorés. Il s'agit notamment des immeubles modestes de 3 ou 4 étages sans ascenseur construits dans les années 1950 à 1970. Les personnes immigrées et à revenus faibles et modestes sont de plus en plus concentrées dans le parc locatif situé dans les premières banlieues de l'après-guerre. Il faut privilégier le transfert de ces immeubles aux bailleurs sociaux ou à but non lucratif, OBNL, afin d'éviter les rénovictions dans les quartiers où s'amorce la gentrification ou la studentification. La planification des nouveaux besoins en logement, tant la réhabilitation des immeubles que la construction de maisons neuves, devrait tenir compte de la diversité croissante des modèles familiaux amenés par l'immigration. Des familles de plusieurs enfants ou de plusieurs adultes, des familles multigénérationnelles. L'octroi d'un logement social de type HLM, habitation à loyer modique, à certains nouveaux arrivants et arrivantes à statut très précaire, dont une partie des réfugiés sélectionnés à l'étranger, constituerait la solution la plus durable en matière de logement abordable et convenable. Or, au-delà de l'insuffisance globale de logements subventionnés en fonction du revenu, le Québec impose une barrière supplémentaire aux immigrantes et immigrants récents en exigeant d'eux 1 an de résidence pour les inscrire sur la liste d'attente d'un HLM. Pourquoi ne pas diminuer ce délai? À l'instar de l'allocation pour enfants à laquelle les familles immigrantes sont admissibles 3 mois après leur arrivée? Les vagues récentes d'arrivées de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile dans de courts laps de temps et dans un contexte de forte pénurie de logements abordables et convenables posent des défis majeurs aux organismes communautaires qui viennent à leur secours. Cela a fait ressortir le besoin de créer un parc de logements où les nouveaux arrivants pourraient vivre pendant environ 2 ans. Géré par des OBNL associés aux organismes communautaires d'aide à l'établissement des personnes réfugiées et immigrantes, ces résidences offriraient aussi des services sur place de façon à favoriser l'insertion sociale et économique des résidents et résidentes. Ce modèle a été bien rodé à Winnipeg. C'était « Personnes immigrées et logement, le grand défi », un texte de Damarcy Rose, paru le 14 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Contrôler sa pression artérielle par l'alimentation. Un texte de Cara Rosenblum, paru le 31 mai 2023 dans To Go. Une pression artérielle élevée ou hypertension est liée à un risque accru de maladies du cœur et d'AVC. C'est pourquoi il est important de faire tout ce que vous pouvez pour contrôler votre pression artérielle. Apporter des changements à votre alimentation peut aider. En fait, une étude récente a démontré que le fait d'apporter des changements à son alimentation pourrait être le facteur réduisant le plus le risque de maladie du cœur chez les personnes atteintes d'hypertension. Voici ce que vous devez savoir. Le régime DASH peut aider. Dans le cadre d'une étude récente, des chercheurs se sont penchés sur diverses modifications des habitudes de vie qui contribuent à réduire la pression artérielle, comme les changements alimentaires, la perte de poids et l'augmentation de l'activité physique. L'étude a révélé que l'adoption du régime DASH, Dietary Approaches to Stopping Hypertension, a le plus grand effet sur la diminution du risque de maladie du cœur. Ces résultats s'ajoutent aux données probantes qui appuient le régime DASH, recommandé depuis longtemps pour les personnes qui souhaitent contrôler leur pression artérielle ou prendre en charge leur hypertension. Le régime DASH. Groupe alimentaire. Aliments à grains entiers. Quelle quantité? Portions par jour, 6 à 8. À quoi équivaut une portion? Une tranche de pain, une demi-tasse d'aliments à grains entiers. Groupe alimentaire. Viande, volaille et poisson. Quelle quantité, portion par jour? 6 ou moins. À quoi équivaut une portion? Une once de viande, de poisson ou de volaille, un œuf. Groupe alimentaire. Légumes. Quelle quantité? Portion par jour? 4 à 5. À quoi équivaut une portion? Une demi-tasse de légumes crus ou cuits. Une tasse de légumes feuilles crus. Groupe alimentaire, fruits. Quelle quantité, portion par jour? 4 à 5. À quoi équivaut une portion? Une demi-tasse de fruits ou un fruit de taille moyenne, un quart de tasse de fruits séchés. Groupe alimentaire, produits laitiers à faible teneur en matière grasse ou sans matière grasse. Quelle quantité, portion par jour, 2 à 3. À quoi équivaut une portion? Une tasse de lait ou de yogourt, 1,5 once, 50 g de fromage. Groupe alimentaire, matière grasse et huile. Quelle quantité, portion par jour, 2 à 3. À quoi équivaut une portion? Une cuillerée à thé d'huile. Groupe alimentaire, noix, graines, haricots secs et pois. Quelle quantité? Portion par semaine, une demi-tasse de pois ou de haricots, un tiers de tasse de noix, deux cuillerées à table de beurre de noix. Groupe alimentaire, friandises et desserts. Quelle quantité? Portion par semaine, 5 ou moins. À quoi équivaut une portion? Une cuillerée à table de sucre. Dans le cadre du régime DASH, on conseille également de choisir des aliments qui sont faibles en gras saturés, en gras trans et en sel sodium. La façon la plus simple de suivre le régime DASH est de diviser votre assiette en cadrans. À chaque repas, remplissez deux cadrans, la moitié de votre assiette de fruits et de légumes. Remplissez un cadran d'aliments à grains entiers, puis remplissez le dernier cadran d'aliments riches en protéines, comme du poisson, de la volaille ou des légumineuses. Optez pour ces aliments plus souvent. Aucun aliment ne peut contribuer à réduire votre pression artérielle à lui seul. C'est l'adoption de l'ensemble du régime qui importe le plus. Cependant, certains aliments sont riches en nutriments qui peuvent aider à contrôler votre pression artérielle, notamment le potassium, le calcium, le magnésium, les fibres, les antioxydants, les protéines et les bons gras. Voici quelques excellents choix à intégrer dans votre alimentation. Yogourt grec nature, riche en protéines, en calcium, en magnésium et en potassium, CR3. Les baies. Riche en fibres et en polyphénol, antioxydants. Poisson gras, par exemple saumon et truite, riche en protéines et en acides gras oméga-3. Légumes feuilles, par exemple choux frisés et bêta-carde, riche en potassium et en magnésium. Légumineuses, par exemple haricots noirs, pois chiches et lentilles, riches en fibres, en potassium et en magnésium. Lait, riche en protéines, en calcium, en potassium et en magnésium. Graines, par exemple chia et lin, riches en acides gras oméga-3 et en protéines. Patates douces, riches en magnésium, en potassium et en fibres. Grains entiers, par exemple avoine, riches en fibres. Avocats, riches en fibres et en potassium. Quelles sont les autres choses qui aident à contrôler l'hypertension? Outre le régime DASH, d'autres modifications des habitudes de vie peuvent contribuer à contrôler l'hypertension, notamment limiter sa consommation d'alcool, cesser de fumer, faire de l'exercice régulièrement. Une étude récente a démontré que faire de l'exercice régulièrement peut aider à réduire le risque de décès lié à une maladie du cœur chez les personnes atteintes d'hypertension. L'étude portait sur 2280 hommes qui ont été suivis pendant près de 30 ans. Les chercheurs ont découvert que les hommes atteints d'hypertension artérielle et qui font peu d'exercice présentent un risque plus de 2 fois plus élevé de décès lié à une maladie du cœur que ceux ayant une pression artérielle plus basse et un niveau élevé d'activité physique. Aucun aliment ne peut contribuer à réduire votre pression artérielle à lui seul. C'est l'adoption de l'ensemble du régime qui importe le plus. Quelle quantité d'activité physique faut-il faire pour aider à contrôler l'hypertension? Visez au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, en tranche d'au moins 10 minutes. C'était « Contrôler sa pression artérielle par l'alimentation », un texte de Kara Rosenblum, paru le 31 mai 2023 dans To Go.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, André Lebeau et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.